Chasseurs d'horizons. Émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective. Des chercheurs nous racontent et nous font partager leur passion de connaître.
Je suis en compagnie de Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour sa participation à l'ouvrage collectif intitulé « La science et les débats publics ». Ce livre est publié aux éditions Actes Sud dans la collection « Questions vives » dirigée par l'IHEST, Institut des hautes études pour la science et la technologie. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre a été constitué cet ouvrage ?
Alors, cet ouvrage est issu des communications présentées lors d'une université d'été organisée par l'IHEST, l'Institut des hautes études scientifiques et techniques, et qui portait sur la question du débat public. C'est une question qui, effectivement, intéresse beaucoup ceux qui s'intéressent à la science, et en particulier les scientifiques. Le débat public constitue pour eux un problème, une épreuve, une difficulté, et au cours de cette université d'été, nous avons essayer d'en débattre.
Votre contribution s'intitule « Une introduction critique à la démocratie délibérative ». La notion de démocratie délibérative est née de la philosophie politique anglo-saxonne du milieu des années 80, mais peine à s'imposer en France. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, c'est un courant théorique qui a été inventé, produit à partir de la fin des années 80, à la fois en France, il y a un auteur qui s'appelle Bernard Manin qui est un des leaders de ce courant, mais surtout dans les pays anglo-saxons, et qui a essayé de théoriser ce que pourrait être une forme de démocratie qui respecterait en quelque sorte le débat, dont la légitimité reposerait à la fois sur le nombre, c'est-à-dire l'élection, la participation des citoyens, mais aussi sur la qualité du débat public. Et c'est l'idée forte qui est au cœur de ce courant de la démocratie délibérative.
Quels sont les thèmes qui pourraient relever de cet idéal délibératif ? Les choix de société dans leur ensemble, les questions scientifiques, économiques, la santé ou autres ?
Alors non, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Cet idéal délibératif tel qu'il a été pensé par cette philosophie consiste à dire une chose centrale. C'est de dire une décision, un choix collectif n'est légitime en démocratie que s'il a été débattu par tous ceux que cette décision concerne. C'est-à-dire que s'il a été pris, ce choix a été pris à l'issue d'une délibération très ouverte et égalitaire entre citoyens. Alors, il est clair que cela ne vaut que pour les choix politiques. Pour ce qui est de la production de la vérité scientifique, là, les règles du jeu sont différentes. Même s'il y a des éléments de débat égalitaire ou démocratique dans l'univers scientifique, ça ne relève absolument pas, me semble-t-il, de la même logique. Il ne faut pas du tout confondre choix politique et fait scientifique.
On peut considérer par exemple le choix du nucléaire comme c'est un choix politique.
Ah, c'est très clairement un choix politique qui n'a pas été débattu, c'est-à-dire très clairement c'est un choix qui n'a pas donné lieu à une véritable délibération démocratique, qui s'est fait dans un contexte de non-transparence et d'opacité de la décision. C'est clairement un choix politique qui s'appuie évidemment sur tout un arsenal de justifications scientifiques et sur une expertise scientifique. C'est là un des nœuds du problème, c'est que jusqu'à très récemment, il était considéré comme parfaitement légitime que les élus et les experts, dans une sorte de huis clos, produisent ensemble ce que devait être l'intérêt général ou les décisions considérées comme d'intérêt général. Aujourd'hui, la société ou une fraction de la société revendique un droit de regard sur ce processus de prise de décision.
La démocratie délibérative renvoie aux notions de délibération rationnelle et de consensus par recoupement. Philippe Kourilski, dans son ouvrage « Le temps de l'altruisme », dont on pourra retrouver l'interview sur le site Chasseurs d'horizons, parle d'un devoir d'altruisme rationnel individuel qui conduirait à une démocratie par discussion. On est sur le même genre de thème, il me semble.
Tout à fait. L'accord par consensus et le consensus par recoupement sont deux notions qui, respectivement, relèvent de la pensée d'abord d'Habermas pour cette idée qu'il est possible de parvenir à une forme de rationalité collective par la discussion. Il y a une hypothèse très forte selon laquelle la délibération peut conduire, sous condition d'organisation, peut conduire à un consensus rationnel. John Rawls est le porteur, celui qui a inventé ce concept de consensus par recoupement. John Rawls, lui, dit autre chose. Il dit il n'est pas possible finalement de s'accorder sur ce qu'est le bien. Mais on peut s'entendre pour organiser le débat public autour de ce qui est juste. Entre le bien et le juste, il y a une différence. Donc on est dans deux conceptions qui sont très proches, et Jürgen Habermas et John Rawls sont les pères fondateurs de la démocratie délibérative, mais il y a des nuances qui les séparent, et voilà, il faut pas les confondre. Mais voilà, cet idéal est vraiment celui-là, la possibilité de parvenir à une forme de rationalité politique par la discussion et sur un mode distinct de la rationalité scientifique ou de la rationalité économique.
On l'a dit, la démocratie délibérative constitue un idéal. Quelles sont les conditions de cet idéal ?
Alors les conditions de cet idéal sont relativement nombreuses et relativement exigeantes par rapport à la qualité du processus. La principale condition, c'est qu'il n'y ait pas de violence, qui pèse sur ceux qui participent à la discussion. Il ne faut pas discuter sous la contrainte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un critère d'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut que, comme je vous le disais, tous ceux que la décision concerne puissent participer à cette délibération collective. Donc il y a ce critère d'inclusion qui est très exigeant. Et puis il y a, parmi les critères principaux, il y a ce critère aussi du respect de ce que certains auteurs appellent le principe de symétrie, c'est-à-dire de la nécessité de n'utiliser que des arguments que l'on sait pouvoir potentiellement être acceptés par l'autre. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer en quelque sorte de persuader l'autre, mais avec des arguments qui vont dans le sens de l'intérêt général. Il est évident que l'exigence de ce critère fait que dans la réalité, les conditions de cette délibération sont rarement réunies.
Il faut aussi assurer à tous une influence égale.
Voilà, en principe, ce que dit Jürgen Habermas dans un essai qui est de type normatif, c'est-à-dire que Habermas ne prétend pas rendre compte de la manière dont fonctionne ordinairement le débat public. Il construit une forme d'idéal à partir duquel on peut confronter, auquel on peut confronter ce qu'est le débat public. Public réel. Mais ce que dit Habermas, c'est que dans ce type de délibération, c'est la force du meilleur argument qui doit être en mesure de l'emporter et non pas l'argument du plus fort. C'est-à-dire que, en principe, tout le monde est à égalité dans la discussion. Et c'est vrai que là, cet idéal normatif est vraiment très, très, très complexe à mettre en œuvre, à opérationnaliser.
Comment peut se justifier cet idéal ?
Alors, il se justifie par rapport à un des impératifs que l'on peut associer à l'idéal démocratique. C'est cet impératif d'échange argumentatif pour parvenir à une solution collective. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas seulement la force du nombre, c'est d'abord la force du nombre, et on a souvent confondu la démocratie et le suffrage universel, c'est aussi une certaine manière de produire la décision, et de ce point de vue-là, la démocratie délibérative introduit une forme de critère nouveau. Mais tel que je l'ai décrite à travers la pensée de quelqu'un comme Habermas, elle correspond aussi tout à fait à un idéal d'égalité qui est au cœur de l'idéal démocratique. Elle correspond tout à fait aussi à l'idée selon laquelle la vérité n'est le monopole de personne, la vérité politique n'est détenue au fond par personne, et tout le monde peut en quelque sorte y accéder et convaincre les autres qu'il la détient.
Vous dites que la recherche en sciences politiques, notamment dans le monde anglo-saxon, va essayer de vérifier que la délibération induit bien les effets attendus. Parmi ces effets, on suppose qu'elle contribuera à former de meilleurs citoyens, mieux informés, donc plus éclairés, avec un esprit plus collectif.
Alors voilà, là il y a une croyance extrêmement forte qui est derrière ces théories de la délibération, c'est l'idée selon laquelle la discussion démocratique peut contribuer à transformer les individus, à les rendre plus ouverts, plus tolérants à l'égard des autres, peut contribuer à les informer aussi, c'est-à-dire à les rendre plus intelligents. C'est une idée qui traverse toute la pensée politique libérale, en tout cas une partie de la pensée politique libérale anglo-saxonne, mais qui est beaucoup moins partagée et diffusée dans un pays comme le nôtre, hein, comme la France, où cette idée que la discussion est source d'émancipation ou d'enrichissement personnel, et cet idéal d'émancipation par la délibération est beaucoup moins fort. Et ce que vont faire une partie des chercheurs intéressés par cette question, c'est mettre en place des expériences qui vont essayer de vérifier le fait que les individus qui participent à des formes de délibération collective adoptent des positions, des points de vue différents de ceux qui n'ont pas été amenés à faire l'épreuve ou l'expérience de cette discussion. Alors, il y a deux types d'enquêtes. Il y a les enquêtes de quasi-expérimental, de laboratoire, où on fait débattre des gens dans un contexte donné et en faisant varier un certain nombre de paramètres de l'expérience. Et ça, c'est un courant de recherche très actif aux États-Unis, notamment. Et puis, il y a ceux qui vont essayer d'observer des forums participatifs ou délibératifs pour essayer d'identifier les moments ou les contextes dans lesquels une véritable délibération se déploie. Je pense par exemple au travail d'une équipe d'Allemands et de Suisses menée par Jürgen Steiner, qui essaye d'évaluer la qualité du débat parlementaire dans plusieurs pays en créant un index de qualité délibérative. Alors, en essayant de repérer un certain nombre de traces de cette délibération dans le travail parlementaire. On a aussi les travaux qui portent sur des assemblées de citoyens ou des dispositifs participatifs.
On a des exemples très concrets de démocratie délibérative dans les pays anglo-saxons.
Oui, on peut citer par exemple l'exemple assez emblématique qui rencontre un écho assez important aux États-Unis d'un dispositif qui s'appelle le sondage délibératif, qui est une forme de sondage, mais à valeur ajoutée. Hein, c'est-à-dire qu'on réunit 300 personnes pendant un week-end à qui on fait passer un questionnaire en début d'expérience, et puis que l'on amène à discuter en petits groupes, à écouter des experts, à écouter des acteurs politiques sur un thème donné, et puis que l'on interroge à nouveau à la fin de l'expérience pour voir si leur opinion a changé, a évolué, et comment et pourquoi elle a évolué. Là, on a une forme de démocratie de laboratoire qui a été menée aujourd'hui à une cinquantaine de reprises. Il y a eu une cinquantaine de débats délibératifs à l'échelle du monde. Il n'y en a pas eu encore en France, mais on est typiquement, à travers ce type d'expérience, à la croisée entre une réflexion théorique sur ce que devrait être une opinion publique idéale, hein, une opinion publique informée et délibérative, et cette recherche sur les effets psychologiques et politiques de la délibération dont je vous parlais.
Donc ça reste quand même très expérimental.
Ça reste expérimental, sauf que dans un certain nombre de cas, ça a produit des effets politiques réels. Je pense par exemple à l'écho rencontré par un sondage délibératif au Danemark sur l'entrée dans l'euro, ou un sondage délibératif qui a été mené en Grèce lors d'une élection municipale où le PASOK, le Parti Socialiste Grec, a choisi son candidat à l'élection à partir d'un sondage délibératif. Hein. Donc on a des expériences comme ça qui montrent que ça peut avoir un effet politique, mais évidemment, ça reste un effet politique relativement marginal.
Les théoriciens de la délibération désignent le vote comme adversaire de leur théorie. Mais paradoxalement, une délibération doit logiquement se concrétiser par un vote.
Vous avez raison, je ne formulerai pas la chose aussi abruptement, même si l'idée est là. L'idée, c'est que le vote n'est pas suffisant, c'est-à-dire que la démocratie ne peut pas se résumer à ce rapport de force qu'est le vote. Et elle ne peut pas se résumer à un processus qui aboutit à un choix, alors même qu'il n'est pas du tout clair que les campagnes électorales et les partis politiques permettent véritablement d'éclairer ce choix. L'idée, c'est de renforcer autant qu'il est possible la qualité du débat préalable au choix. Il est clair que la délibération, et le sens français même de ce mot délibération rapproche de l'idée même de décision. Donc pas de délibération sans décision, sans horizon décisionnel, je suis tout à fait d'accord. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas multiplier les élections qui finalement font l'impasse sur le processus de construction de l'opinion préalable. Hein. Une élection seule n'est pas véritablement suffisante pour dire que on est en démocratie et de ce point de vue-là, je serais plutôt en accord avec ces théories de la démocratie délibérative.
Deux autres adversaires de cette théorie délibérative, le marché et la négociation.
Oui, alors voilà, c'est la négociation est un autre mode. Alors il y a l'un des auteurs de ce courant, Yon Elster, dit il y a trois manières de prendre la décision en société. Il y a l'élection, le choix majoritaire, il y a la négociation. Il y a le marché, excusez-moi. Il y a le marché, il y a la négociation et il y a la délibération. Voilà, c'est les trois manières, l'élection étant autre chose. Il y a trois manières de construire un choix. Là où les théoriciens de la démocratie délibérative s'opposent aux théoriciens du choix rationnel, c'est dans les hypothèses sur lesquelles ils se fondent. Les théoriciens du choix rationnel et le libéralisme en général postulent que l'individu est un calculateur égoïste qui cherchera quoi qu'il arrive à défendre son intérêt et à parvenir à ses fins personnelles. Les théories de la démocratie délibérative pensent qu'il n'est pas du tout clair que l'individu soit forcément un homo economicus. Il postule au contraire qu'il est de la nature de l'homme, comme le disait Aristote, d'être un animal social, coopératif, qu'ils sont capables et qu'ils peuvent vouloir construire avec d'autres le bien commun, et que surtout ils ne savent pas forcément d'eux-mêmes quels sont leurs véritables intérêts, et que la délibération, la discussion peut révéler à eux-mêmes ce que sont leurs véritables préférences. Donc on a deux paradigmes qui sont quand même assez opposés l'un à l'autre. La négociation, alors là on a parlé du marché ou de ce que serait la concurrence entre interindividuels organisée par le marché. La négociation, c'est autre chose. Et c'est vrai que la frontière entre négociation et délibération est toujours très difficile à trouver puisque dans la réalité, les deux se mêlent. La négociation, c'est un pur rapport d'intérêt dans laquelle il n'est pas question à proprement parler de chercher un bien commun avec les autres. Et donc c'est une affaire, nous disent les théoriciens de la démocratie délibérative, exclusivement de calcul, de coûts et avantages et de rapports de force, mais ça n'est pas une affaire de rationalité au sens habermasien ou politique du terme. Donc ils ont tendance à opposer, me semble-t-il d'une manière peut-être un peu trop caricaturale, la négociation et la délibération.
Autre question qui se pose, celle de la compétence des participants et de la pertinence de leur argumentation. Ne risque-t-on pas d'avoir affaire à une démocratie pour savants ?
Là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que je vous ai parlé de critères exigeants pour la démocratie imposée par les théoriciens de la démocratie délibérative. Il y a l'idée que les citoyens donc sont a priori tolérants aux arguments de l'autre. Il y a l'idée qu'ils sont capables de se situer du côté de l'intérêt général, c'est-à-dire de se défaire de leurs préjugés pour envisager ce que pourrait être un idéal supérieur. Et de tous ces points de vue, finalement, ce point de vue, ces exigences risquent en quelque sorte d'être opposées à des acteurs, à des publics qui n'ont pas forcément ni envie, ni la possibilité de se situer du côté de cette forme d'argumentation rationnelle, froide, savante, argumentée. Et c'est notamment ce que des auteurs comme Nancy Fraser ou Iris Marion Young, qui sont des théoriciennes critiques et féministes américaines, opposent à l'idéal de d'Habermas. C'est l'idée que pour quelqu'un qui a tout à perdre à se confronter à des individus qui lui sont socialement supérieurs ou qui ont un niveau d'éducation plus élevé, il est clair que pour cela, la délibération c'est un piège, et que leur demander en plus de ne pas prendre en compte leurs identités ou leurs intérêts, c'est beaucoup trop leur demander. Et donc, du coup, ils ont tendance à récuser cette définition de la rationalité qui est liée à la théorie de la démocratie délibérative.
Je suis en compagnie de Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour sa participation à l'ouvrage collectif intitulé « La science et les débats publics ». Deux dispositifs expérimentés en France se rapprochent de cette idée de démocratie délibérative. Le débat public organisé par le CNDP, qui est la Commission nationale de débat public, et les conférences de citoyens. Alors le débat public d'abord, avec comme exemple le débat récent sur les nanotechnologies. L'information paraît avoir été très bien organisée par la Commission, avec un livret très clair et de nombreux cahiers d'acteurs. La suite est plus discutable, avec une très faible participation des citoyens au débat, et surtout l'accusation de l'association Pièces et Manœuvres d'utiliser le débat public comme une fabrique de consensus, a posteriori, une fois que les décisions ont été prises, et une légitimation donc de décisions déjà entérinées.
Alors, je vais revenir sur deux choses. D'abord, sur ce qu'est cette institution du débat public au plan idéal, hein, au plan théorique. C'est vrai qu'avec cette Commission nationale du débat public, qui n'a pour seule mission que la mise en place d'un débat préalable à la décision, on se situe dans une forme de mise en œuvre, même si les gens de la Commission nationale du débat public n'ont jamais lu Habermas, ou en tout cas pour la plupart d'entre eux, mais ils se situent finalement dans une sorte de proximité à cet idéal délibératif. La Commission nationale du débat public ne prend pas la décision, mais elle éclaire la décision par un débat ouvert préalable. Donc là, c'est l'idéal. Dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Il est clair que dans de très nombreux cas, lorsque la Commission nationale du débat public déclenche le débat, la décision a déjà été prise sous la forme d'une loi ou sous la forme d'une prise de position gouvernementale. Et dans ces conditions, le débat public ne peut être qu'une caricature parce que normalement, il suppose la possibilité de discuter de tout, y compris de l'opportunité d'un projet. Le cas du débat sur les nanotechnologies est un cas un peu particulier. Il n'y a pas là, effectivement, de projet d'équipement, comme pourrait l'être une centrale nucléaire ou une ligne TGV, sur lequel il faudrait trancher. Là, il y a une politique doit être discutée et qui est la politique à l'égard des nanotechnologies. Et dans cette configuration-là, un groupe d'activistes particulièrement actifs, particulièrement efficaces, a récusé d'emblée le principe même du débat public en jugeant que la décision avait déjà été prise, puisqu'il existe aujourd'hui des nanotechnologies, des nanomatériaux un peu partout, et qu'il est beaucoup trop tard pour laisser penser qu'on pourrait empêcher ce processus. Ce groupe d'activistes, pièces et main d'œuvre, a empêché que le débat public puisse se dérouler normalement et il a montré en quelque sorte la fragilité du débat public. Il est très compliqué, ou de la démocratie délibérative, il est très compliqué d'imposer aux acteurs politiques de débattre lorsqu'ils ne le veulent pas, lorsqu'ils ne le souhaitent pas. Et donc cela démontre que dès lors que les conditions d'un débat public serein ne sont pas réunies, il n'y a rien à faire j'allais parler de sabotage, mais je pense que le mot même de sabotage serait revendiqué par Pièces et Main-d'œuvre, qui se revendique du ludisme, vous savez, ces ouvriers anglais qui cassaient les machines au XVIIIe siècle. Il s'agit bien d'un sabotage, et face à cela, il est impossible de prétendre pouvoir continuer à maintenir les conditions d'un débat public serein.
Autre dispositif, les conférences de citoyens ou jurys de citoyens, soutenues notamment par Jacques Testard et la Fondation Sciences Citoyennes. Ce dispositif prétend construire un public tout en structurant une controverse.
Ouais, alors les jurys de citoyens donc renvoient à une forme politique qui n'est plus tout à fait nouvelle, hein, puisque elle remonte aux années 60 et puis elle s'est diffusée à partir du Danemark dans les années 1990 avec plusieurs expériences en France. Les jurys de citoyens proposent une sorte de condensé de maquette de ce que pourrait être une forme de démocratie délibérative idéale, puisqu'on tire au sort un groupe d'une vingtaine de citoyens, on leur donne une information contradictoire sur une question donnée, ça peut être les OGM, ça peut être le changement climatique, on leur donne une information contradictoire, on leur fait écouter des experts, on les fait discuter, approfondir la question ensemble, hein, en groupe, collectivement, et puis on leur demande un avis à l'issue de ce processus. Là, sur le papier, il est clair que l'on est très très proche de l'épure de l'idéal délibératif. Et on a vu des tas d'expériences démontrer que des citoyens, même des citoyens lambda, entre guillemets, étaient parfaitement capables d'assimiler les enjeux, la complexité de certaines questions, notamment scientifiques et techniques, et de produire un jugement politique sur eux. Là où je suis plus dubitatif d'un certain point de vue, c'est sur la portée politique envisageable de ces jurys de citoyens. Il est clair que dans la plupart des cas, leur influence de la décision est marginale. Que le tirage au sort qui désigne ces citoyens ne suffit pas à leur conférer une légitimité. Donc il est très compliqué finalement de donner de l'influence politique à ces conférences ou ces jurys de citoyens.
Est-ce qu'on peut rapprocher cette institution de l'idée d'une démocratie par tirage au sort comme proposé par Étienne Chouard ?
Oui, alors Étienne Chouard, bon, à la différence de Jacques Testard, de mon point de vue, ne revendique pas la conférence de citoyens comme modèle. Lui, il est plutôt sur la proposition d'une assemblée constituante tirée au sort. Hein. Mais derrière ça, il y a cette réhabilitation à laquelle nous sommes en train d'assister, de l'idée du tirage au sort, dont Montesquieu disait qu'elle était le seul mode de sélection démocratique des gouvernants, alors que l'élection était un mode de sélection aristocratique des gouvernants au XVIIIe siècle. On est convaincu de cela. Et puis, on a oublié hein, qu'on avait la possibilité de recourir au tirage au sort. Alors, ça pourrait être, effectivement, pour désigner des gouvernants. Des propositions sont faites, à l'heure actuelle, pour qu'une partie des conseils municipaux ou qu'une troisième chambre soit composée en partie de citoyens tirés au sort. On a le retour de cette idée nouvelle dans un contexte de crise majeure de la démocratie représentative. Et puis, on a cette hypothèse selon laquelle le tirage au sort permet véritablement de concrétiser l'idéal d'égalité qui est au cœur de la démocratie, dès lors que l'on pense que tous les citoyens sont capables de produire des décisions justes, à ce moment-là, pourquoi et au nom de quoi devrait-on s'y opposer ?
Un des problèmes récurrents qui apparaît dans ces dispositifs est le choix des experts qui devront être mobilisés pour informer les participants.
Oui, alors tous ces dispositifs, que ce soit jury de citoyens ou débat public, constituent autant de révélateurs de la fragilité aujourd'hui de l'expertise, et notamment de l'expertise publique. L'expérience de Gilles Séralini là, sur les rats à propos des OGM, là, qui fait l'actualité de ces dernières semaines, montre bien ce que sont les failles de l'expertise publique. Il n'y a plus aujourd'hui véritablement d'expertise qui puisse être considérée comme véritablement indépendante. Vous avez des experts qui, d'un côté, sont souvent en situation de conflit d'intérêts par rapport aux grandes entreprises et aux grands intérêts économiques, et de l'autre côté, vous avez des experts qui sont militants. Alors, auxquels de ces experts confronter les citoyens ? Il y a deux manières de procéder. Soit on essaye d'aller chercher les derniers experts indépendants qui existent et leur demander de prendre une position ou de donner une information objective, ou est-ce qu'on accepte le principe du contradictoire en confrontant ces deux groupes d'experts qui s'opposent sur à peu près tous les sujets. Aujourd'hui, il y a des formes d'expertise contradictoires, il y a des positions concurrentes qui s'affrontent et qui s'opposent dans le débat public. Et c'est vrai que c'est une question majeure. J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de bon débat public sans véritable expertise publique, au sens où il serait dans l'idéal de la charge de l'État de fournir cette expertise indépendante et qui ne relève d'aucun conflit d'intérêt en pratique, avec l'affaiblissement du financement de la recherche publique, avec les collusions de cette recherche sur un certain nombre de dossiers et l'engagement de ces chercheurs sur certains dossiers, cette situation ne se rencontre que de moins en moins souvent.
Autre questionnement, la volonté d'implication des citoyens. Qu'est-ce qui peut conduire à penser que les citoyens se mobiliseraient plus pour une délibération que pour un vote ou un référendum ?
Ça, c'est effectivement. Là, pour le coup, je n'irai pas jusqu'à dire que les citoyens sont demandeurs spontanément de plus de délibération. Là, il y a une controverse dans la recherche en sciences politiques là-dessus. Finalement, que veulent les citoyens ? Est-ce que, comme le disent certains auteurs, ils haïssent la politique, ils essayent d'éviter d'en faire par tous les moyens et se contenteraient de désigner de temps en temps des gouvernants qui feraient le travail à leur place ? L'autre position consiste à dire que finalement, il y a des contextes, des moments, et peut-être que nous vivons ce type de moment, même si en France, ça n'est pas tout à fait clair, des moments où le citoyen ne peut plus se désintéresser complètement des affaires publiques, revendique un droit de regard et une possibilité de s'exprimer. On le voit au niveau local, quand vous vous sentez directement concerné par un dossier, à ce moment-là, il est hors de question que vous soyez mis à l'écart et interdit de prendre position. Donc, il est, pour moi, ma position, c'est que l'intérêt du citoyen pour la délibération, pour la participation, ne peut être qu'intermittent. Hein, nous ne verrons jamais des sociétés constamment en train de participer, de discuter. C'est un intérêt intermittent, mais je pense qu'une société véritablement démocratique doit donner cette possibilité, cette offre de participation partout où c'est possible.
Que peut-on attendre de l'apport des technologies de l'information et de la communication dans ce type de processus ?
Bon, ça c'est encore un autre dossier. Vous abordez tous les gros dossiers liés à ces questions. Il est évident que ce sont des outils formidables qui peuvent créer les conditions d'une véritable égalité de parole dans l'espace public où tout un chacun peut prendre position sans véritable obstacle, même s'il reste des obstacles techniques. Ce sont des outils qui rendent beaucoup plus efficaces les mobilisations. On l'a vu récemment dans toute une série derrière toute une série d'événements, de mouvements ou de révolutions. Ce sont des outils qui offrent la possibilité d'acquérir une information beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète. J'observe avec beaucoup d'intérêt tous ces sites qui rendent compte aujourd'hui du travail parlementaire, qui surveillent les gouvernants. Et là, on est au cœur de ce que Rosan Vallon appelait la contre-démocratie. Donc il y a beaucoup à attendre d'éthique, il y a beaucoup à attendre des technologies numériques, mais il est évident qu'on ne peut pas tout en attendre et qu'elles ne créeront pas artificiellement ou in abstracto de la participation.
Vous présidez le conseil scientifique du groupement d'intérêt scientifique, participation du public, décision, démocratie participative. Pouvez-vous nous présenter cet organisme rapidement ?
Alors, il s'agit d'un GIS, d'un groupement d'intérêt scientifique, qui est une sorte de fédération de laboratoires. Une cinquantaine de laboratoires francophones sont impliqués, où se font des recherches sur la participation, qui ne sont pas uniquement dédiées à cette question, mais où se font des recherches sur la participation des citoyennes. C'est un organisme qui contribue à la structuration, à la mobilisation, aux échanges de cette communauté de chercheurs. Voilà.
En conclusion, ces dispositifs vous paraissent-ils souhaitables, utiles ou restent-ils utopiques car vraiment trop complexes à mettre en œuvre ?
Alors oui, il y a une dimension d'utopie. Il y a clairement derrière un certain nombre de ces instruments et de ces travaux l'idée selon laquelle tous les possibles ne sont pas fermés. C'est-à-dire que nous pourrions faire autrement, nous, à condition de nous en donner les moyens et d'en avoir la volonté. Donc il y a une dimension de contre-exemple, hein, contre-factuel d'un certain nombre de ces dispositifs qui, dans la pratique, sont assez difficiles à opérationnaliser. Mais je note quand même qu'il y a plusieurs expériences qui ont démontré que tout cela a été opérationnalisable. Aujourd'hui, l'Islande a voté un référendum qui a été élaboré selon une démarche participative et délibérative proche de celle décrite dans la littérature, avec des imperfections, mais nous y sommes parvenus. Tout cela ne relève pas uniquement de l'utopie. Il est clair aussi que tout cela ne pourra pas, à plus ample informé, remplacer véritablement la démocratie représentative. Le caractère, même s'il est de moins en moins central et crucial de l'élection, reste fondamental, me semble-t-il.
Je rappelle que j'étais en compagnie de Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour sa participation à l'ouvrage collectif intitulé « La science et le débat public ». Merci.
Vous écoutiez Chasseurs d'horizons, l'émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective présentée par Denis Chataigner. Retrouvez et téléchargez tous nos entretiens sur notre site www.chasseursd'horizons.fr.